Ouais, c'est juste, je ne peux pas m'empêcher à rebondir sur justement l'exemple de Thomas Hirschhorn pour justement amener encore un autre aspect qui a été peu évoqué mais que je trouve extrêmement au cœur de cette discussion et avec Thomas Hirschhorn on y est presque, c'est justement le rôle de l'artiste à l'intérieur de cette discussion de l'évolution du musée. C'est-à-dire on avait à l'époque des années 70 avec la critique des institutions qui a complètement déjà basculer un peu le rôle des institutions et qui a posé cette question à travers des œuvres qui ont travaillé la question. Il y en a actuellement à Nîmes, une exposition de Valégrade qui met bien en perspective à la fois l'enjeu du numérique, à la fois aussi la question qu'est-ce que devient un objet d'art quand ça devient un objet de connaissance. Et pour moi, justement, l'exemple de Thomas Hirschhorn, enfin, je le dis juste parce que j'ai fait un papier un peu, enfin, quand même critique par rapport à ce qu'il a fait au Palais de Tokyo, parce que je connais son travail depuis un moment, je l'apprécie beaucoup, mais justement, cette répétition de quelque chose qu'il a déjà fait au sein de la friche du Palais de Tokyo a complètement vidé le côté politique revendicatrice de son propos. Donc, c'est-à-dire, si vous avez tout à fait raison, le visiteur devenait participateur de l'œuvre. Donc, il était plus utilisateur de l'œuvre. Il a été, d'une certaine manière, happé par une sculpture.
Absorbé
par une sculpture. Donc, voilà, c'est juste pour parce que, voilà, sur le vif, mais je crois que ça permet justement peut-être d'injecter un peu dans la discussion justement le rôle de l'artiste. Est-ce que, parce que tout à l'heure on a dit ça pourrait être un rôle de médiateur, j'ai l'impression que ça va plus loin. C'est un rôle de critique, mais profond. Il ne faut pas rappeler le fameux livre sur le blanc, mais
sur le
White Cube, en fait. Mais bon, on est un peu là.
Si je peux me permettre, j'adhère complètement à ce que vous dites. Thomas Hirschhorn, on peut en discuter, je suis assez d'accord, mais effectivement, on pourra peut-être en discuter le temps du déjeuner. Mais le rôle de certains artistes, pas de l'artiste en général, au sein du musée, peut permettre des conditions d'expérimentation du musée, à certaines conditions. Je ne les ai pas toutes, mais il y en a au moins une, c'est qu'on ne soit pas dans une situation qui est très très bien. Par ailleurs, je me retourne vers le Louvre, mais je défends en plus les artistes invités, enfin le principe d'invitation des artistes au sein du musée, et que ce ne soit pas des résidences ou des expositions dans l'exposition. Alors ça sera toujours intéressant d'un point de vue muséographique, ça documente beaucoup, il y a des échanges très fréquents entre les artistes contemporains et les collections du musée, mais plutôt l'artiste comme acteur de l'innovation elle-même. Et je pense que les modalités de mise en place de projets spécifiques incluant des artistes dans lesquels ils doivent créer, non pas seulement exposer leurs œuvres, mais créer des dispositifs originaux et pas simplement de la duplication dans des collections muséographiques, ça peut créer non pas simplement de la perturbation, ça c'est simple, il suffit de taguer un tableau comme ça a été fait pour le faire, mais plutôt créer des échappées et ce pas de côté dont tu parlais. Il y a un pas de côté, pour le coup, qui est vraiment en dehors de ces différents types d'algorithmes, y compris, je le dis en toute amitié, c'est absolument pas une critique, hein, les algorithmes expérientiels, et on en a besoin, c'est-à-dire des formes. Thomas Hirschhorn, pour moi, c'est aussi un algorithme expérientiel. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait produire des choses, et c'est nécessaire. Encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer négativement, mais je dis simplement que les artistes intervenant dans le processus d'évaluation peuvent créer des ouvertures qu'on n'a pas dans ces formes dites informelles.
Ah, parce que ce que les artistes peuvent apporter, c'est...
Mais pas tous, certains.
Ce que les artistes peuvent apporter, c'est de la qualité aussi.
Oui.
Ouais, je pense par exemple vis-à-vis de la structure de la musée.
Oui, je voulais juste revenir sur la question de l'artiste, vous parlez d'acteurs de l'innovation. Moi, tout d'un coup, il y a en tête un article de Tristan Trémaud, qui est un critique d'art, il y a un historien d'art, qui parlait justement de ce problème des œuvres qui se médiatisent elles-mêmes. Et alors, le problème, c'est quand même qu'après, on ne tend plus vers des œuvres d'art, mais des œuvres qui s'expliquent et elles perdent quand même tout un peu. Le problème, c'est de perdre un peu le discours critique qu'une œuvre peut avoir. Enfin, c'est ça le truc.
Ça, c'est à l'artiste de le régler. C'est à l'artiste de le régler.
Oui, mais le problème, c'est que l'artiste, il est aussi avec des contraintes d'exposition, j'imagine, donc, et des demandes aussi des institutions, donc, puisqu'on est aussi le moment de voir un peu comment on joue avec cette relation-là, parce que c'est aussi un point de médiation, à savoir est-ce qu'on simplifie, est-ce que voilà. Donc il y a aussi ce problème, il ne faut pas non plus que l'artiste, mais il faut que l'artiste joue son rôle d'artiste, c'est-à-dire qu'il produit des œuvres, puis après il y a des médiateurs à côté qui vont aussi justement jouer leur rôle de médiateur. Mais...
Tout en sachant qu'à un moment donné, il interagit avec des formes qui ne sont pas sa propre souveraineté et qu'il faut aussi négocier.
Mais là, je pense que l'artiste ne doit pas négocier. Mais...
justement, tu vois, c'est la question de la souveraineté de l'artiste. Qu'est-ce qui se passe lorsque son œuvre est intrinsèquement mêlée ou liée à une forme de médiation, de discours théorique, peu importe sa forme spécifique, et qu'une forme de mise en scène, d'exposition, de situation de cette œuvre nécessite qu'on la transforme? Est-ce qu'il va négocier ou pas? S'il ne négocie pas, il est dans sa position d'artiste. Non, mais je pose la question parce que c'est précisément une question cruciale quand même avec ces œuvres-là.
Mais je pense que c'est quand même des questions qui sont plus du ressort des artistes.
Et dans négociation, il y a négoce.
Il y en a qui ont plus de pouvoir que d'autres, donc ils réussissent à poser leur point de
vue. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce que. Sont à propos de l'architecture expérimentale, susceptible de susciter une expérimentation, ou en tout cas adaptée à la dimension de l'expérimentation, par exemple des villages, par les zones, etc. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui fait le plus mal, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est à la pointe du projet, par rapport au le projet Museumix, il a quoi, 3 ans?
Il rentre dans sa 4e année.
Après l'expérience de ces 4 années, de ces 3 années, pour vous, la densité d'expérimentation la plus forte aujourd'hui, elle serait où par rapport
à... Le passage à l'échelle.
Le passage à l'échelle.
C'est-à-dire faire que de plus en plus de gens, justement, s'autonomisent et s'aident entre eux sans passer par les goulots d'étranglement de fondateurs.
D'accord. C'est-à-dire une autonomisation.
Ben oui. Donc c'est une histoire d'architecture, vraiment oui. Profondément.
D'où c'est pas vous êtes que vous revenez sur ça.
Oui, par rapport à cette idée du passage à l'échelle, je pensais par exemple au Muséomix en or, qui a donc démarré d'abord au Louvre-Lens, avec une petite équipe fermée au départ, puisque c'était une équipe dédiée à ça, et puis qui maintenant se transforme en association beaucoup plus ouverte. Avec des bulles de travail, qui utilisent des outils collaboratifs, etc., pour inventer ces champs du possible, ces espaces qui vont permettre la créativité d'avoir lieu. C'est plus maintenant sur le mode associatif, dans la transformation un petit peu de l'équipe, un petit peu qui travaille à la création des conditions.
Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si on distinguait la créativité de la création? Parce qu'il y a la créativité en fait du côté des publics, et on a plus ou moins tous de la créativité. Et en même temps, je trouve dans ce système et cette architecture, je suis bien d'accord sur ce terme, particulière pour innover et pour générer de la créativité plus bottom-up, comme disent les marketeurs, il y a à côté de ça, et c'est encore autre chose, la création artistique, non pas la création artistique au sens général du terme, mais des pratiques de création artistique. Qui ne sont pas de la créativité, qui sont vraiment autre chose. Et je pense que les artistes ont un rôle, encore une fois, à jouer dans ce contexte-là pour générer de la créativité aussi, mais en gardant leur objectif qui est leur sien, c'est de créer des performances ou des situations ou des œuvres d'art. En fait, je pense qui sur la table, les termes, sont, enfin, je pense, sont importants.
Oui.
Il y a, je ne sais plus qui disait, il n'y a pas de gladiatif, il n'y a que des gladiateurs. En ce sens où il y a beaucoup de créatifs, mais pas beaucoup de créateurs. Et que, donc il ne s'agit pas de mépriser la créativité, absolument pas, parce qu'il faut la générer, elle fait partie, je pense, des modalités pour expérimenter le musée. Mais en même temps, il y a comment combiner la création et les exigences d'une création artistique dans ce contexte-là.
Ça, c'est aussi une question qu'on se pose justement, parce que, alors là, pour être critique par rapport à ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, on trouve que parfois, on est finalement. Que ça va produire des choses qui auraient pu être produites dans un autre cadre, de type plus classique, prestation, etc. Donc à quoi bon? À quoi bon? C'est pas la peine de faire. Donc c'est une question qu'on se pose, et comment on peut avoir des éléments plus, qui emmènent plus loin sur des projets plus déstabilisants, qui remettent en question le statu quo du visiteur, de sa place. Alors cette année, ce sera l'enjeu, et c'est comment on intègre dans MuseumX ou ailleurs, dans d'autres dispositifs, justement, comment l'artiste, lui aussi, a envie ou pas de s'intégrer dans ce genre de dynamique.
Parce que jusqu'à présent, il y avait relativement peu d'artistes.
Il y en avait peu, il y en a eu un petit peu l'année dernière.
Ouais, d'accord.
Et ça a apporté, notamment à Lyon, il y a eu des metteurs en scène qui sont venus, ça a apporté vraiment quelque chose. C'est là où on s'est tilté. Mais alors, pour prendre l'exemple inverse, moi j'avais discuté avec le directeur. Directeur des abattoirs à Toulouse, on discutait de MuseumX, il me disait ben non, on ne pourra jamais en faire parce que l'artiste conçoit sa propre. La médiation de l'œuvre vient avec l'œuvre, avec la proposition de l'artiste, et avoir un public qui serait. Qui remixerait, ça ferait une couche. Ça ferait un filtre en fait d'accès à l'œuvre plutôt qu'une médiation.
Est-ce qu'il y a une vision ancienne?
Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était à la limite. Ça m'a. J'avais pas assez réfléchi à ça. Et du coup, ça m'a. J'ai trouvé que c'était assez sensé finalement. Comme. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire ça que avec des artistes qui considèrent que leur œuvre est pas étanche et peut s'articuler avec d'autres voix, avec d'autres interventions? Mais ça sera, on pourra effectivement inclure dans ce type d'architecture que les artistes qui sont prêts, pour des raisons qui leur conviennent, à jouer ce type de jeu. Je ne dis pas que ceux qui ne le sont pas.
Parce que de toute façon, la question de la transmission de ces œuvres, elle se pose. Je ne laisse pas parce qu'on est dans un musée d'art contemporain avec des œuvres d'artistes vivants qui eux-mêmes, effectivement, décident de ce qu'ils transmettent à. Spectateur, que ça se joue ou pas, qu'on évacue la question de la transmission. Il y a toujours dans ces musées énormément de gens qui viennent, qui n'ont pas les contextes, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas, qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne connaissent pas l'artiste, etc. Et qui ont besoin d'une transmission. Je veux dire, le spectateur idéal, il n'existe pas.
Et c'est pour ça que moi, je pense que là, ces questions-là, elles sont à traiter par les artistes. Puisque finalement, c'est pareil pour les musiciens. Enfin, ça rejoint des questions beaucoup plus larges. Est-ce qu'on accepte que ces productions soient remixées en ligne?
Ça rejoint une autre question aussi, qui est, est-ce que jusqu'à quel point, et ça dépend vraiment des artistes, les gens souhaitent eux-mêmes résister à l'explication. Parce que ça n'est pas une. On n'est pas obligé d'expliquer l'œuvre. Il y a quand même, moi je me retrouve quand même souvent en train de dire ça, quoi, c'est dire, mais attendez, être devant une œuvre et ne pas la comprendre, ça peut être vachement important dans la vie aussi. On n'est pas obligé tout le temps de comprendre les œuvres qu'on va voir. Parfois on les comprend 6 mois après, ou parfois on les comprend parce que je vais en discuter avec un pote qui va m'éclairer sur tel ou tel aspect, etc. Et cette dimension-là, c'est une dimension qui finalement est peu abordée, parce qu'on a toujours l'impression que le point de fuite, c'est quand même toujours qu'il faut qu'on comprenne, et qu'une sorte de volonté de comment on dit avec lui,
de thématiser complètement.
Oui, enfin
de décryptage en fait.
J'ai cherché un autre verbe qui était plutôt d'ordre agricole, mais je ne le retrouve pas, donc c'est pas grave.
Norme agricole.
Oui, qui était plutôt d'ordre agricole. Cette idée de filtrage.
C'est l'ordre du contrôle en fait.
Voilà, qui revient à une notion de contrôle. C'est-à-dire que, effectivement, quand on produit des œuvres, on produit aussi. Alors, là, je peux parler en tant qu'artiste, en mon propre nom, quand on produit une œuvre, on produit aussi une certaine opacité qui va avec cette œuvre, et qui parfois est parfaitement délibérée, et qu'on ne souhaite pas voir intégralement expliquée, dépliée, etc. Parce qu'elle fait partie du jeu de l'œuvre.
Abraham Wallace en parle de manière.
Abraham Wallace en parle très bien.
Très bien. Mais c'est encore ce. Je suis obsédé par le modèle de Shannon. On est encore sur un système de communication. Il y a le récepteur créateur, l'artiste. Il fait en sorte que son message est crypté. Et le récepteur, en fait, il a un message crypté, et la quantité de cryptage fait la qualité artistique d'une certaine manière, et le médiateur va venir finalement comme un opérateur télécom, des communications s'établissent, le message, allô, comme s'il y avait un message au départ, était bien reçu à l'arrivée. Allô, allô. Et ça, c'est quand même un modèle, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un modèle sur lequel se fonde beaucoup la médiation, mais elle s'est beaucoup critiquée aussi là-dessus, qui est très très puissant, plus puissamment ancré chez les artistes et chez les publics. Qu'est-ce qu'il a voulu dire?
Je pense qu'il faudrait aller plus vers un modèle de transformation réciproque, où il y a une espèce d'étrangeté comme ça, un peu comme dans le rapport à l'autre. Enfin, dans le rapport à l'autre, on peut être dans un rapport à quelqu'un d'étranger, ou avoir envie de comprendre, thématiser, segmenter l'autre. Et par les réseaux sociaux, on transforme de cette manière-là, d'ailleurs, notre rapport à l'autre un petit peu. Et je pense que le rapport à l'œuvre, il peut aussi basculer dans cette relation-là, où il peut se construire autrement, où on peut aider à ce qu'il se construise autrement.
C'est pour ça que c'est peut-être un vecteur intéressant pour expérimenter le musée, par dégâts collatéraux.
C'est pour ça que je parlais d'altérité tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, il y a d'une certaine manière, pour moi, l'artiste fait grumeau dans un musée. Ça veut dire qu'il y a quelque chôle de l'art, le rôle d'un artiste qui fait que ça se dissout pas dans la pâte à crêpes.
Quand
on
voit la pâte
à crêpes,
ça va pas
du tout. À propos de pâte à crêpes, il est 13h.
Comme vous avez dit, Rodule, le tonnerre tonne toujours à 13h. Vous l'avez entendu, à 13h pile.